Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Christophe Jourjon, président de la Fédération UDI de la métropole de Lyon. Christophe Jourjon, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie des 6 candidats investis par l'UDI dans le Rhône pour les élections législatives. Ce sera en juin 2017. Alors vous vous présentez dans la 3e circonscription, c'est à Lyon. Et vous vous lancez déjà dans la campagne à 9 mois du scrutin. C'est pas un peu tôt ?
Non, c'est pas tôt parce que moi je veux vraiment me donner le temps de rencontrer les habitants, rencontrer les associations, les commerçants, les entreprises, pour pouvoir discuter avec eux des propositions qu'il est important que je porte au niveau national pour notre territoire, pour notre circonscription et puis pour notre pays également. Donc pour cela, il faut du temps. C'est pour ça que je démarre maintenant.
Je dois vous poser la question tout de suite. Vous savez qu'il y a des chances que votre candidature soit sacrifiée au terme des négociations possibles avec les Républicains. C'est pas trop d'énergie dépensée avec beaucoup de chances d'aboutir ?
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. L'important, c'est d'avancer, de travailler, et après, on verra les stratégies politiques. Aujourd'hui, moi, je suis dans une démarche d'être candidat. Je travaille ma circonscription, je travaille les propositions. Je veux rencontrer les Lyonnais pour avancer sur des propositions concrètes pour notre territoire. Les stratégies politiques et politiciennes, ça ne me concerne pas et ça ne concerne pas non plus et ça n'intéresse pas, je pense, les Lyonnais.
Alors, votre candidature est aujourd'hui d'actualité. Quel projet portera le député Christophe Jourjon ?
Le projet que je porterai, très rapidement, 2-3 axes sur l'économie, avec la volonté de transférer une partie du financement de notre système social, des charges salariales, vers une TVA sociale, ce qui permettra d'améliorer la compétitivité des entreprises et ce qui permettra également d'améliorer le pouvoir d'achat des Lyonnais. Donc ça, c'est une première mesure. C'est quelque chose que l'Allemagne a mis en place en 2007. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'Allemagne, en termes économiques, elle a plutôt des succès. Elle engrange plutôt des succès. Deuxième point aussi qui est très important pour moi, l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, notre système d'éducation n'est pas satisfaisant. Il fonctionne mal. Il y a une étude qui est sortie mardi dernier qui le démontre. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on redonne de la souplesse au système éducatif, qu'on fasse confiance aux établissements, qu'on donne la possibilité d'expérimenter. Et il faut que les enseignants puissent adapter leur pédagogie. Parce que dans une classe, il y a des enfants qui sont en difficulté, il y a des enfants qui fonctionnent bien, puis il y a des enfants précoces aussi. Mmh. Et donc, il faut que l'enseignant puisse adapter sa pédagogie pour être dans la prévention et non pas dans le curatif de l'échec scolaire. Et à ce propos, moi, je regrette beaucoup la déclaration de Najat Vallaud-Belkacem la semaine dernière, je crois, qui disait que pour lutter contre l'échec scolaire, elle voulait prolonger l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Mmh. Pour moi, ça ne sert à rien, c'est un effet de com. C'est-à-dire que l'enfant qui est en échec scolaire à 16 ans, c'est pas parce qu'on va lui dire pendant 2 ans de plus, tu restes 30 heures par semaine assis sur une chaise, qu'il va réintégrer le système éducatif. Donc cette annonce de la ministre de l'Éducation nationale ne sert absolument à rien, mis à part faire de la com.
Vous voulez aussi revoir une partie de la loi PLM, vous voulez donner plus de pouvoir au maire d'arrondissement à Lyon. Qu'est-ce que ça changerait concrètement ?
Alors ça, c'est un sujet sur lequel je me bats depuis plusieurs années. Ouais. Je vais vous donner une illustration concrète. Depuis quelques mois, je me bats pour sauver la piscine de Gerland, ou tout au moins pour qu'à Gerland il y ait une piscine, puisque effectivement Lyon était déficitaire en termes de bassin nautique. C'était une décision de Gérard Collomb, maire de Lyon, de fermer la piscine de Gerland, il l'a annoncé fin juin. Depuis fin juin, je me bats pratiquement tous les jours avec des habitants, avec des associations, avec mes collègues aussi élus d'opposition du 7e pour lutter contre ça. Et on voit que finalement, la proximité, elle a réussi à gagner. C'est-à-dire que depuis fin juin, on a eu 2 victoires. La première, c'est que Gérard Collomb a annoncé, suite à notre mobilisation, qu'il y aura une nouvelle piscine qui se construira à Gerland. Mmh. Première victoire. Deuxième victoire, moi, depuis cette annonce, je militais pour que la piscine d'été de Gerland reste ouverte jusqu'à la livraison de la nouvelle, du nouvel équipement.
Ce sera le cas.
Et il a annoncé lundi au conseil municipal que finalement, la piscine d'été de Gerland resterait ouverte jusqu'à la livraison du nouvel équipement. Donc, c'est vraiment une illustration concrète que les élus locaux du territoire, de l'arrondissement, n'ont pas la même vision que le maire de Lyon. C'est-à-dire que le maire de Lyon a une vision beaucoup plus orientée sur le rayonnement international, sur l'attractivité.
Oui.
C'est important parce que c'est des emplois, c'est le développement économique de la ville. Mais il faut aussi penser à la proximité, penser aux enfants qui l'été ne partent pas en vacances et qui ont besoin d'avoir des équipements sportifs, par exemple.
Mais à Lyon, à part les maires du 1er, du 2e et du 6e arrondissement, les autres sont quand même très proches de Gérard Collomb, très inféodés, non ?
Oui, je reprends votre mot, très inféodés à Gérard Collomb. Oui.
Mais la maire du 7e arrondissement, par exemple, elle était pour la fermeture, finalement, parce que Gérard Collomb lui avait demandé la fermeture de la piscine de Gerland.
Oui, mais si c'était le maire du 7e arrondissement qui prenait la décision, elle n'aurait pas pris cette décision-là.
Vous pensez qu'elle n'aurait pas consulté Gérard Collomb avant?
Ça serait fait dans un autre sens et ça serait fait différemment.
Alors, pour cette élection législative, on connaît déjà quelques adversaires. Hein, ils sont particulièrement coriaces dans la 3e circonscription. Il y a le député PS sortant Jean-Louis Touraine et la républicaine Nora Béra. Selon vous, ils ont fait leur temps place aux centristes?
J'ai jamais fait de jeunisme, donc je ne vais pas m'engager dans cette voie. Ceci étant, une des propositions que je porte, c'est le renouvellement des pratiques politiques. Pour moi, il faut arrêter le cumul des mandats. Que ça soit le cumul des mandats en parallèle, c'est-à-dire dans le même temps plusieurs mandats, parce qu'à ce moment-là, l'élu n'est pas présent, et c'est la technostructure qui gère. Mmh. Et à la limite, heureusement que la technostructure gère, sinon rien ne se ferait. Donc il faut arrêter le cumul de mandats en parallèle, et il faut aussi arrêter le cumul de mandats dans la durée. C'est-à-dire que je pense que deux mandats, c'est suffisant. Un mandat, c'est un peu court, parce qu'il faut réussir à rentrer dans les dossiers, comprendre le fonctionnement de ces collectivités ou de l'Assemblée nationale, donc il faut un peu de temps pour être efficace. Mais le deuxième mandat permet d'être efficace dans un exécutif ou à l'Assemblée nationale. Ce que l'on n'a pas fait en deux mandats, je ne vois pas pourquoi on le ferait dans un troisième mandat.
Je disais place aux centristes, finalement, dans le Rhône, il y a un seul parlementaire centriste, hein, c'est le sénateur UDI Michel Mercier. Mm-hmm. Pour un département et surtout pour une ville, Lyon, qui est réputée de tendance centriste, c'est un échec.
C'est un défi. C'est-à-dire que demain, il faut qu'il y ait d'autres parlementaires centristes dans la métropole de Lyon. Alors, ce n'est pas parce qu'il faut des parlementaires centristes, ce n'est pas ça le problème. Mais l'enjeu, c'est que je suis, moi, outré par cette rentrée politique, on arrive à la fin du mois de septembre, où tous les débats s'orientent sur un seul thème, c'est opposer les uns aux autres, exclure les uns, marginaliser les uns, pointer du doigt certains. Ce n'est pas ça la société, ce n'est pas ça le rôle d'un politique. Un élu, il doit rassembler, il doit faire travailler ensemble, il doit recréer une identité et une union nationale. Mmh. Les élus, ils sont élus de tous les Français, quelle que soit leur diversité, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur sensibilité politique ou religieuse. Et c'est pas en opposant les uns aux autres que l'on va pouvoir construire la France de demain. Donc la vision centriste, c'est aussi ça, c'est une vision humaniste où l'objectif, c'est de travailler ensemble pour construire un projet commun. Et tout à l'heure, vous me disiez pourquoi vous partez aussi tôt en campagne, c'est exactement ça, c'est travailler ensemble pour construire demain.
Du coup, je vais formuler ma question autrement. Quelles sont les chances de l'UDI, selon vous, dans le Rhône en 2017? Est-ce que Christophe Jourgeon rassemblera suffisamment? Est-ce que Denis Broliquier rassemblera suffisamment contre Emmanuel Macron, potentiellement?
La réponse est oui. Ouais. Je vous donne rendez-vous le 18 juin 2017 pour que vous m'invitiez à nouveau, et cette fois non pas en candidat, mais en élu député de la Nation.
Merci Christophe Jourgeon. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Merci pour l'invitation.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio, en partenariat avec lyonmag.com.